France Culture. Les nuits de France Culture.
Bienvenue à Poudenas, petite commune de quelques centaines d'âmes du Lot-et-Garonne. Poudenas, son château, ses arcades, son pont et surtout son auberge, la Belle Gasconne. Car dans ce village charmant mais plutôt discret, se cache une grande tradition gastronomique, menée par la chef Marie-Claude Gracia, dont la cuisine régionale pleine de délicatesses a su émouvoir jusqu'aux inspecteurs du guide Michelin, qui lui ont attribué une étoile. Mais c'est aussi grâce aux produits locaux, cultivés avec un grand savoir-faire par des agriculteurs et des agricultrices comme Evelyne Capin, qui a fait de la culture de l'asperge sa spécialité. Ce 10e et dernier épisode de la série « Saveurs, savoirs et rêveries gustatives » de René Elkaïm Bollinger, pour De bouche à oreille, nous emmène au bord de la Gélise, découvrir les produits et la gastronomie qui y fleurit. Avec Marie-Claude Gracia et Evelyne Capin donc, ainsi que Dina Sescati, qui nous accompagne dans une visite d'un parkawa, autre animal emblématique de la cuisine du pays. Une émission en forme d'une baignade rapide et rafraîchissante dans un univers plein de saveurs, d'arômes et de soleil donc, diffusée pour la première fois le 12 août 1994 et réalisée par Anne-Marie Chapoulier.
De bouche à oreille, du côté de Poudenas, au bord de la Gélise, par René Elkaïm Bollinger. Retour à Poudenas avec Marie-Claude Gracia, Dina Sescati et Evelyne Capin, agricultrice.
J'ai choisi les asperges parce que c'est une culture qu'une femme peut très bien assumer du début de la plantation à la récolte et même après. Alors c'est pour ça, puis j'ai un terrain qui est favorable à ça aussi.
Qu'est-ce que c'est un terrain favorable ?
C'est sablonneux. C'est le sable un petit peu noir des Landes, mais il y a du sable blanc ici, comme vous voyez là. Mais alors c'est pour ça que j'ai choisi cette culture.
Et qu'est-ce que c'est comme asperge ?
Ben, c'est l'asperge qu'on trouve ici partout. C'est l'asperge que l'on nous demande blanche, c'est-à-dire qui n'a pas vu la lumière en fait. Hein. On la cherche sous une butte, on la cherche. Et c'est ce qui en fait la qualité. Elle est très blanche, donc elle est très recherchée. Mais alors si par mégarde vous oubliez votre asperge, si vous ne l'avez pas vue, avec un soleil très chaud, forcément elle perce la terre et elle devient à ce moment-là violette. C'est une autre variété d'asperge qui est bonne aussi, qui est fameuse parce qu'elle est beaucoup plus goûteuse, je trouve, à mon goût, hein, que la blanche. Parce que la blanche, elle est belle d'aspect, c'est vrai. Ici, elle part beaucoup à l'exportation. Mais c'est vrai que l'asperge qui est un petit peu violette et qui a vu la lumière a un autre goût. Alors celle que l'on a oubliée pendant 2 ou 3 jours, celle-là, elle devient verte, elle est encore fameuse et on en fait essentiellement des omelettes.
Et les fraises ?
Ah oui, alors parce que j'ai quand même 15 000 pieds d'asperges, ce qui représente 1,5 hectare. Et j'ai très peu de fraises en fait, j'en ai 3 000 pieds, hein, c'est pas beaucoup. Alors c'est la fraise remontante que je fais moi, c'est-à-dire que bon, la grande culture de la fraise ici dans le département, c'est la pleine culture, c'est au début mars hein, jusqu'à avril-mai. Bon après c'est terminé. Alors moi, lorsque les autres ont terminé, moi je commence. J'arrive à ma fraise remontante, c'est-à-dire elle a des cycles. Cette fraise elle va commencer début juin, pleine floraison, 15 jours de production, puis ça s'arrête. Alors ça fleurit de nouveau pendant 15 jours, 3 semaines. De nouveau, j'ai un cycle de 15 jours de cueillette. Et alors, ça se passe comme ça jusqu'au gelé. Jusqu'au mois d'octobre, je ramasse mes fraises. Comme ça, tout l'été, j'ai des fraises. C'est pour ça que Marie-Claude m'a demandé. J'en ai pas actuellement parce qu'elles sont en floraison. D'ici 3 semaines, j'aurai de la fraise de nouveau.
Et vous les ramassez comment ?
Ah, ben, à la main. On n'a pas le choix, hein, tellement là. À la main, bon, c'est pénible. Bon, sans être pénible. Il faut se mettre à quatre pattes, à genoux, et puis on cueille la fraise dans des barquettes. Et puis, bon, sûrement, j'ai une production où je peux. Je peux distribuer mes fraises sur le plan local ici. Bon, par exemple, au village de Sauge, j'ai 2 ou 3 épiciers ben, qui me prennent mes fraises et puis qui les vendent en vendant la viande ou en vendant des produits qu'il y a à vendre dans le magasin. Quoi. Ça se passe comme ça.
Et elles ont quelle forme ces fraises ? Elles ont une forme particulière ?
Elles ont une forme ronde. Contrairement aux fraises qu'on trouve ici en pleine production qui sont plus allongées, c'est la fraise ronde, c'est la fraise, la mara des bois, elle s'appelle. piquant, justement un parfum de fraise des bois. Oula, faut pas rêver, c'est quand même pas... Ça a quand même pas le goût de la fraise des bois. Mais enfin, on retrouve un petit goût de fraise des bois. Elle est d'une couleur rouge pourpre, une jolie fraise. Vraiment, elle a beaucoup d'odeur et elle est très bonne. On peut la manger comme ça, ça va sucrer forcément.
Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance liés à la nourriture, nourriture d'enfance, comme ça, des choses que vous avez particulièrement aimées?
Je me rappelle d'une brandade de morue que faisait ma grand-mère. Une brandade de morue avec, je ne sais pas comment elle faisait. Là, par contre, je n'ai jamais pu voir la recette. Une brandade de morue qu'elle faisait avec partir d'une sauce tomate. C'était délicieusement bon, mais alors là, le secret est parti avec elle parce que j'ai jamais su comment elle... Je me souviens de au lait aussi qu'elle faisait sous la braise, parce que bon, autrefois on avait partout des feux de cheminée forcément, et on cuisinait beaucoup sous la braise. Je me rappelle des deux au lait qu'elle faisait aussi sous la braise. Elle mettait je sais pas quoi dessus parce qu'on n'avait pas de papier alu comme maintenant. Et les papiers alu, c'est facile. Je sais pas ce qu'elle mettait, des assiettes, papier... Non, des assiettes. Je crois qu'une assiette calotte, elle mettait des charbons dedans. Enfin, c'était délicieusement bon. Et elle faisait pareil le macaroni au gratin. Elle arrivait à faire gratiner comme ça dessous. Ça, c'était... Ce sont des choses que j'ai en mémoire et qui étaient particulières.
Et le goûter, par exemple, est-ce qu'il y avait des choses particulières au goûter?
Ah oui, il y avait les confitures qu'elle faisait dans la grande bassine en cuivre. J'ai vu ça souvent, mais par contre, ça se faisait sur la cuisinière à bois. Voilà, on tournait pendant des après-midi entières, on faisait recuire le lendemain. Je me souviens particulièrement des confitures de fraises, justement des confitures de mûres aussi, j'ai imaginé que ma grand-mère faisait. J'ai ces souvenirs-là.
Est-ce qu'on vous a transmis des secrets de plats? Est-ce qu'on vous a appris, par exemple, à faire la pâte? Comment ça s'est passé, l'apprentissage?
Je ne peux pas dire qu'on m'a appris. J'ai regardé. J'ai regardé parce que je crois que je parle de ma grand-mère parce que je l'ai vue cuisiner. Ma mère, je l'ai vue aussi. Mais elle ne prenait pas le temps de me dire, tiens, je fais comme ça, il faut faire comme ça. Non, je regardais et je crois que c'est moi-même qui en tirais après mes conclusions et qui faisait que j'avais envie de faire comme ça.
Et vous restiez dans la cuisine à tournicoter autour d'elle?
Oui, tout à fait. Et puis j'ai un fils qui, lui fait pareil. Lui, il veut savoir ce que je fais, mais par contre, lui, il me pose des questions. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais pas comme ça? Tandis que moi, je ne posais pas de questions à ma grand-mère et je regardais faire. La figue, la verte à chair jaune, la blanche chair rouge, la noire à chair rouge, la violette à chair rosée, mauve plutôt que violette, avec sa peau si fine. Figue seconde, qui des plus belles heures de l'été fait son miel, s'enfle de rosée nocturne, et verte ou violette, pleure par son œil, un seul pleur de gomme délicieuse, pour vous marquer l'instant de sa perfection.
Alors,
il manque ce lait qui coule, qui s'écoule lorsqu'on cueille la figue, en fait, qu'on la sépare de la branche. Il s'écoule un liquide laiteux, on l'appelle le lait. C'est velouté, c'est doux, mais c'est vrai que c'est infâme, c'est amer. Et ça sert du reste à... Ça a des propriétés pour certaines personnes pour soigner les verrues. On met de ce lait, on le passe sur une verrue lorsqu'on a une verrue, et bon, on dit qu'au bout d'un certain temps, mais il faut le faire plusieurs fois, la verrue disparaît.
Et vous aimez les figues?
Et moi, j'aime les figues. Alors moi, j'aime la croquer. Je croque carrément, mais d'une façon particulière quand même. Je la croque, mais avant, j'ouvre. Je l'ouvre en quatre, je ne mange pas la peau. Avec les dents, je racle tout ce qui est contre la peau. Là, je mange la chair d'abord, et je laisse cette peau, parce que je trouve qu'elle est... Elle a quelque part quelque chose d'un peu amer. Alors c'est pour ça que j'aime pas la peau. Alors moi, je mange toute la chair qui est dedans et je laisse la peau. Mais après l'avoir ouvert en quatre, et je mords à pleines dents dedans.
Et vous l'aimez blanche, noire?
Non, je l'aime bien violette, là. Parce que lorsqu'elle est violette, oui, elle est à... Elle, qu'elle est un peu craquée, elle est vraiment au point maximum de maturité, et je trouve que c'est là qu'elle a tout son goût, toutes ses senteurs. Je trouve que c'est à ce moment-là que je la préfère. La verte, moi, je l'aime pas, parce que c'est âpre, c'est pas mûr, quoi, en fait, hein, c'est pas bon. Mais c'est vrai que la violette, comme il est dit, là, elle est vraiment...
La violette,
ouais, elle est vraiment délicieuse. Les goûters du chaud jardin, l'été, les meringues farcies de crème fraîche, les framboises se perdaient dans un excès de lumière et de chaleur.
Vous m'avez dit quoi à propos des meringues que...
Que j'en mangerais sur la tête d'un teigneux. La meringue, avec tout ce que vous voudrez autour, du chocolat, un coulis de framboises, même trempé dans la confiture comme ça, c'est débile, mais alors j'en mangerai à toutes les sauces, hein, vraiment.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans la meringue?
C'est quoi? Je ne sais pas, c'est craquant, et on a l'impression de manger de l'air, ou je ne sais pas, c'est une drôle d'impression, mais c'est le fait que ça craque peut-être sous la dent, je ne sais pas l'expliquer.
Et c'est moelleux à l'intérieur?
À l'intérieur, c'est moelleux. Quand elle est bonne, oui, c'est moelleux à l'intérieur, effectivement.
C'est comme une grotte sucrée.
Tout à fait. Mais avec du chocolat, c'est bon.
Dina Cheshkati, gaveuse d'oie près de Poudenas, le foie gras c'est son affaire et elle aime les sauces.
Moi j'aime les sauces, les riz de veau et cervelle, j'aime des sauces des paupiettes.
Les sauces des paupiettes, comment vous faites?
Comment je fais? Moi je fais revenir mes paupiettes, une poignée d'échalotes, une petite cuillère de farine. J'ajoute un petit peu d'eau, des champignons, des olives que je hache, des ossées, des entières, des hachées, et je laisse mijoter très très doucement. Salé, poivré, et je l'assaisonne au goût à mon goût à moi. Mm-hmm. Voilà. Mais je le fais cuire très doucement.
Combien de temps?
Oh, je ne sais pas vous dire, mais très très lentement, je le fais cuire, je pense 2 heures. Je l'arrête et je le reprends, je le recuis, très lentement. Je ne sais pas, parce que j'y passe la demi-journée pour le faire. Voilà, parce que je fais des plats comme ça quand j'ai des invités, voilà, je ne fais pas ça pour moi toute seule, qui vis seule. Voilà.
On va aller chez vous?
Bien sûr, mmh. Avec plaisir, avec grand plaisir, oui. Ici, vous arrivez sur l'exploitation d'Aouas, la ferme d'Aouas.
Ça veut dire quoi, Aouas?
Aouas en patois, ce sont les fèves. Ça a été bâti en 1782, cette maison. Donc elle est vieille,
elle
vous
est
voyez.
Ancienne, hein?
Oui, elle est ancienne. Hein? Et moi, nous étions là en 52, et depuis je suis toujours là, voilà, sur l'exploitation. Et alors là, il y a le parc aux oies que je vais vous faire voir. Hein? Parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de bêtes. On les rentre maintenant, les bêtes. Il y a juste un lot de canards et un lot d'oies. Les canards, ils vont chercher, on les prend à un jour. Et là, on les élève nous-mêmes. Elles mangent du grain. Ce n'est pas venu aux aliments, c'est venu vraiment au grain. Au maïs, maintenant on n'a pas de blé, il n'y en a pas. Mais dans quelques jours, il y aura du blé, de l'orge, des orges. Et voilà, on les fait venir comme ça. Là, elles ont toujours de l'eau claire, puisqu'il y a un robinet, il y a l'eau qui coule toujours. Et en liberté.
Elles sont près du petit lac, là.
Ah, mais
elles n'y vont pas.
Elles se mettent simplement à l'ombre. On a mis ces arbres pour qu'elles aient de l'ombre. Mais tout est parqué. Ça, c'est le parc. Après, elles vont passer dans l'autre parc, là-bas. Là, on va le désinfecter et puis on y mettra des canards. Ça sera les canards qui viendront là. Et voilà, on fait roulement, on passe d'un parc à l'autre puisqu'on fait 1600 canards à peu près. Voilà.
Marie-Claude Gracia, chef à Poudenas, apprend aux enfants de l'école de Poudenas la pâtisserie, le pétrissage et la sensualité de la pâte.
Moi, j'aime toucher la pâte, je crois que c'est ce que je préfère, la soulever, mais l'étaler au rouleau, la rendre de plus en plus fine, et puis surtout la toucher, la goûter comme ça, crue, sans qu'elle soit cuite. Et je pense que... C'est sûrement rare les enfants qui n'ont pas été fascinés par des mains de femmes dans la farine, en train de préparer le puits, cette farine qui est un peu comme du talc, on a envie de toucher, les au milieu, la pincée de sel est remuée, on regarde jusqu'où elle met de l'eau un petit peu avec un verre, toujours le même verre, elle remue, ça rentre, ça s'écroule, toujours comme un peu du talc parfumé et qu'on va manger, et puis ça fait une petite pâte jaune, et puis on a le droit de toucher un peu pour voir si c'est bien, et puis après étaler cette tarte avec un torchon. Pour moi, c'est lié à un torchon, un gros torchon bien blanc de fil, de gros fil, parce qu'avant, on étalait la pâte toujours sur des vieux draps qu'on avait sacrifiés parce qu'ils étaient usés d'un côté, qu'on rapetassait, qu'on rapiéçait, et puis on s'en servait pour étendre la pâte, pour travailler la pâte. Et la pâte à merveille aussi, la pâte qu'on coupe en losange, que la mère ou la grand-mère étale, et que moi j'ai fait pour mes enfants et petits-enfants combien de fois. Mes cinq enfants et mes trois petits-enfants se sont amusés combien de fois. On a tous des souvenirs de petite enfance et de pâte.
Et vous avez aussi appris à des enfants du village à faire la pâtisserie il y a quelque temps.
Parce qu'il y avait eu en France la journée du goût, pour leur apprendre, c'est très très important, les goûts de base. Et le maître d'école de Poudenas et Richard m'ont demandé de cuisiner avec eux pendant une matinée. On s'est bien amusé, j'avais un petit peu peur. Mais enfin, on s'est bien amusé ensemble. J'aurais pas voulu que ça s'arrête d'ailleurs. Alors aux petits, je leur ai fait étaler de la pâte, on a fait la pâte. Ils étaient par table de quatre, et je peux vous dire qu'il y avait une de ces compétitions, mais là aussi fascinés, vraiment accrochés, et puis je leur ai fait étaler, garnir des tartelettes, et puis après couper des pêches et mis des pêches dans les petites tartes, et ils les ont fait cuire eux-mêmes, ils les ont emportés chez eux, mais la plupart les ont mangés avant d'arriver à la maison, et puis et les autres, je leur ai fait faire une pâte molle, un miasse au pruneau. Alors, enlever les noyaux des pruneaux, les mettre à macérer avec l'armagnac et le sucre cristallisé crissant. Et après, faire bien le mélange avec le sucre, les œufs, la farine, bien mélanger. Faire le ruban brillant, bien blanchir le mélange de sucre et d'œuf avant. Faire le ruban, là, bien, qui tombe dans la cuillère en bois, qui coule. Et puis après, on l'a fait cuire au four, ils se sont régalés. Mais c'est l'apprentissage de la vie, ça contient tellement de choses là. Et puis ça, s'il n'y a pas une cuisine de souvenirs, c'est une cuisine morte. C'est une cuisine qui va s'effriter comme s'il n'y avait pas de fondation dessous. Et pour leur vie future, s'ils n'ont pas ces souvenirs d'amour qui sont véhiculés par la cuisine, quel grand mot, tonnerre. Mais enfin, c'est vrai quand même, il faut qu'ils aient ces bases-là. Et quelqu'un qui n'a pas de souvenirs de cuisine, je me demande si ça existe, de souvenirs liés à la cuisine, ben c'est inquiétant quand même.
Du côté de Poudenas, au bord de la Gélise, par René El-Kaïm Bollinger, avec Dina Cescati, Marie-Claude Gracia, Evelyne Capin, mixage Olivier Berotte, réalisation Anne-Marie Chapoulier.
C'était le 10e et dernier épisode de la série Saveurs, Savoirs et Rêveries Gustatives de René Elkaïm Bollinger pour De Bouche à Oreille, diffusée pour la première fois le 12 août 1994.